Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
L'évangile de Matthieu, c'est une parabole de Jésus, elle est intéressante. Et j'aimerais donner un commentaire sur le sujet. Alors, Matthieu chapitre 21 et le verset 33, s'il vous plaît. Alors, Matthieu 21, verset 33, Jésus dit « Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma, il l'a mis en location, si vous voulez, à exploitation, à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un vers l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage ». Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ses misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait et ils cherchèrent à le saisir, à se saisir de lui. Mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait, elle tenait Jésus pour un prophète. Voilà pour cette situation qui nous parle d'usurpation. Vous savez ce que c'est qu'une usurpation ? C'est finalement s'approprier le bien d'autrui et en faire son bien propre. C'est du vol. Et c'est ainsi finalement que l'histoire de l'Évangile et l'histoire du royaume des cieux a été écrite pour montrer que Dieu, c'est celui qui a tout donné aux hommes, il a fait des dons à l'humanité, particulièrement un choix tout à fait sensible et plein de grâce et de miséricorde en ce qui concerne Israël, et que quelque part, les Juifs ont été véritablement ingrats, parce que tout ce que, à travers les siècles et les temps, Dieu leur a prodigué de bénédictions, de secours, de grâce, nous voyons que ça n'a pas apporté des changements dans leur cœur, et cette ingratitude les a amenés, comme Jésus le dit, tout simplement à mépriser la bénédiction de Dieu, voire à tuer. Le Fils dont nous allons parler, se séparer du Fils pour s'approprier l'héritage du royaume de Dieu. L'héritage de mettre en quelque sorte Dieu en prison et devenir l'esclave des hommes. C'est vraiment un changement radical. Et c'est Jésus qui va donner cette leçon, parce que vous avez remarqué avec moi, il nous a dit qu'à un moment donné, les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les autorités religieuses d'Israël et les pharisiens, comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Jésus ne parlait pas du peuple. Il ne parlait pas des gens de la nation des Juifs. Il parlait finalement des autorités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, tous ces gens qui étaient là, juifs en tant que juifs, qui avaient naturellement le privilège d'être juifs et qui quelque part, ont montré un comportement odieux. C'est un véritable outrage. Alors, on va reprendre pour la compréhension notre texte. Et c'est vrai que c'est une véritable usurpation qui est naturellement présentée à travers cette parabole. Jésus veut leur faire comprendre que finalement, les coupables, c'est pas Dieu qui est coupable dans cette affaire. C'est leur incrédulité qui les rend coupables parce qu'ils ne veulent rien savoir. Et même quand Dieu va envoyer son fils pour sauver le Messie d'Israël, pour sauver le peuple d'Israël, l'histoire du fils, c'est l'histoire finalement de la crucifixion de Jésus. Alors on va décoder un peu tout ça. C'est une criminelle usurpation, on peut dire ça de cette manière. Donc je le rappelle, usurper, c'est simplement s'approprier tout simplement ce qui appartient à autrui, à quelqu'un d'autre, pour se le donner à soi-même, c'est-à-dire le voler. C'est un vol. Jésus dénonce le vol des autorités religieuses. Ils ont volé, en quelque sorte. Alors, Jésus donne ça sous l'image la forme d'une parabole, et il parle d'un homme, tout simplement, qui est maître de maison, qui est propriétaire. C'est l'image de Dieu. Maître de la création, on pourrait dire. Maître de la maison, il plante une vigne. Et c'était quelque chose de très compréhensible pour tous les Juifs du temps de Jésus, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, finalement, Israël, c'est un pays de vignes aussi, il faut bien le reconnaître, où il y a, en effet, bien là, des vignobles et toutes sortes de choses, et il était de coutume, comme il est encore de coutume aujourd'hui dans certains pays, de planter des vignes parce que c'est un signe de richesse, c'est un signe de bénédiction, et vous savez que la vigne donne du vin, et le vin, c'est ce qui réjouit le cœur des hommes, à consommer avec modération, naturellement, pour ne pas oublier la formule, mais toujours est-il que c'est une bénédiction de Dieu, dans la mesure où les choses sont faites dans l'équilibre. Alors, il nous est dit qu'il a pris soin de sa vigne. Comme tout maître, tout propriétaire se respecte, il ne va pas planter un pied de vigne ici puis laisser l'abandonner à la nature. Non, ça demande des soins. Une vigne, c'est quelque chose qui... C'est un gros travail pour les vignerons, pour un propriétaire. C'est-à-dire que c'est un entretien toute l'année. On se dit, il travaille que à la vendange, pas du tout. Vous les trouvez en plein hiver faire la taille. Vous les trouvez là à toute saison parce que bon, il y a une production, la vendange, mais c'est un travail d'une année. Alors ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a des années qui sont bonnes et des années qui sont pas bonnes du tout. Alors il nous est dit qu'il l'entoura d'une haie, qui est l'image de la protection. On peut peut-être penser, pour faire simple, que cette haie, c'est l'image de la parole de Dieu que Dieu a donnée aux Juifs, et comme à nous-mêmes. Parce que cette parole, elle limite. Cette parole, elle n'est pas là pour nous restreindre, elle est là pour nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Passer cette frontière de cette haie, c'est l'aventure. Et beaucoup d'hommes, le monde, franchit les... Il n'a pas de limite, il ne connaît pas la parole de Dieu, il ne veut pas la connaître. Et les Juifs, eux, ont reçu cet environnement. C'est pas un renfermement, c'est une protection. Il nous est simplement rappelé qu'il entoura d'une haie, et cette parole de Dieu, à travers ce que nous y trouvons, nous enseigne la volonté de Dieu, nous enseigne finalement ce que nous devons respecter. Et ce qui est respectable, ce que Dieu nous demande de respecter, c'est pour notre propre bonheur. Vous savez, c'est comme le code de la route, il y a un code. Et si on l'enfreint, on risque notre vie, mais on risque aussi la vie des autres. Donc, c'est l'image de la parole de Dieu là. Et puis un pressoir, c'est finalement, le pressoir il sert à produire, c'est-à-dire le fruit, et à ce qu'il donne finalement ce fameux vin. Tout dépend naturellement des cépages et du terroir. Mais un pressoir, et il a bâti une tour. Et cette tour, en quelque sorte, ça servait d'ailleurs dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'histoire de la Bible. Chaque propriétaire de vigne avait une tour et il y mettait des gardiens pour qu'il n'y ait pas des intrus qui viennent se servir. C'était une forme de sécurité. Et c'est vrai que nous devons toujours penser que Dieu a les regards sur nous. Regarder une tour, c'est fait pour regarder, c'est pour surveiller. On y met des sentinelles. Et Dieu nous a donné aussi, différents gardiens pour que nous puissions, être en sécurité dans l'enclos. Et puis il nous est dit que ce vigneron a affermé sa vigne, il est parti. C'est l'image. Lorsque nous pensons que Dieu, tout en étant invisible, qui nous semble parti, ou Jésus, lorsqu'il est venu, est remonté au ciel, mais il revient. Et pendant ce temps-là, les Juifs, pendant l'Ancien Testament, étaient dépositaires de ces paroles, étaient dépositaires de la pensée de Dieu, de la loi et des prophètes. Et naturellement, c'était eux qui étaient chargés de faire vivre le peuple moralement et spirituellement. Qu'en ont-ils fait? C'est une autre affaire. Et puis il a quitté le pays. Et puis un beau jour, il a appris que la récolte était là. Comme tout propriétaire, c'est normal. Hein, si vous êtes propriétaire de quelques arbres fruitiers ou d'une vigne ou autre chose, hein, peu importe. Alors il a appris que la révolte était arrivée. Alors il envoya ses serviteurs vers les vignerons, vers ceux qui avaient été mandatés, vers ceux qui étaient payés pour entretenir la vigne, parce que c'était comme ça que ça se passait. Hein, et à fermer, c'est bien, c'est justement tout simplement, eh bien, c'est faire le travail et puis recevoir un salaire. Donc il envoyait ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. C'est l'histoire de tous les prophètes qui se sont succédés dans l'histoire d'Israël. Des hommes de Dieu, des hommes qui parlaient au nom de Dieu, des hommes qui étaient juges en Israël, par exemple, des hommes qui avaient la foi en Dieu. Alors il les envoyait les uns après les autres. Et on va voir un petit peu le sort. C'est que les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. C'est exactement ce qui s'est passé dans toute l'histoire. Malheureuse et on pourrait dire ingrate du peuple d'Israël, des prophètes qui sont tués, des prophètes qui sont lapidés. Ils parlaient au nom de Dieu, mais ça ne plaisait pas. Et c'est bien l'histoire finalement, et bien que qui est constatée à travers ce que Jésus résume là, hein, tout simplement. Alors, ça a été souvent l'occasion de jugement de Dieu. C'est vrai, il faut le dire. C'était l'occasion de certaines sanctions qui sont tombées sur Israël. Puisque vous tuez mes prophètes, puisque vous voulez pas écouter ce que je vous dis, eh bien, vous allez perdre les batailles, vous allez perdre les guerres, vous allez être asservis, vous allez vous retrouver en captivité, en exil, et ça a duré des siècles et des siècles. Il y a eu de bons rois en Israël, en Juda particulièrement, mais il y en a eu de très mauvais, qui ont entraîné le peuple en disant « mais Dieu n'existe pas, c'est plus la peine de faire comme nos pères », et qui entraînent le peuple à l'idolâtrie. Et ça a coûté très cher à Israël, hein, quand on voit les déportations, par exemple, à Babylone. Hein, c'était quelque chose d'épouvantable. Mais Dieu n'était pas finalement en cause dans cela. Il avait donné une sécurité, il avait donné une parole, on l'a vu à travers là les images que nous avons prises, il avait donné l'espérance d'avoir du fruit au temps de la récolte. Bah, il n'y avait rien du tout. C'était des mauvais fruits, des fruits amers, avec un vin, si on peut dire, c'est l'image, hein, c'est une image de l'esprit, mais avec un vin qui était imbuvable en quelque sorte. Donc ce qui devait être une bénédiction pour le peuple choisi, le peuple élu, eh bien ça s'est tourné malheureusement à cause de l'incrédulité, à cause des révoltes, à cause des murmures et de tout ce que vous voulez, ça s'est tourné en malédiction. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui nous pouvons dire que le peuple d'Israël est toujours au même point. Hein, bon, l'histoire a passé, mais on sait très bien que, on va le voir dans le détail, mais on sait très bien que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est maintenant réuni à toutes les nations, qui a ressurgi, qui a ressuscité, mais on peut pas dire que c'est un peuple qui est converti à Jésus-Christ. Ils attendent encore leur Messie. Et c'est terrible. Terrible, parce que bon, on voit bien que là, ils sont encore dans leur tradition, encore dans leur loi très restrictive, très, très marquée. On peut pas dire qu'ils ne sont pas religieux. Ils sont extrêmement religieux. Mais Dieu ne cherche pas des hommes religieux, il cherche des hommes qui se convertissent. Des pardon, excusez-moi, qui sont nés de la vie de l'esprit. C'est ça la différence. Alors on va un peu plus loin. Ils ont tué les uns, ils ont battu les autres, ils ont lapidé également. Alors il nous est dit que le maître de la vigne a envoyé encore d'autres serviteurs, et en plus grand nombre. Et quand on lit l'Ancien Testament, c'est un défilé, finalement, de serviteurs de Dieu qui vont venir, qui vont supplier Israël en disant « mais tournez-vous vers Dieu, convertissez-vous, Dieu n'est pas venu pour vous châtier, pour vous punir, pour, vous détruire, mais votre Dieu est un Dieu qui veut vous bénir et vous ne voulez pas de la bénédiction. Vous vous creusez des citernes qui sont crevassées, qui ne retiennent pas l'eau, et vous avez faim, vous avez soif, vous avez toutes sortes de besoins et vous êtes continuellement malheureux, vous êtes soumis à vos ennemis. Pourquoi ? C'est votre désobéissance. Parce que vous n'observez pas les commandements de Dieu. » Et on voit un petit peu tout ce que ça a pu être de conséquence parmi le peuple juif. Donc il a envoyé d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Ah oui. Vous savez, quand les gens veulent pas entendre, ils n'entendent pas. Ils ne veulent pas entendre, alors à ce moment-là, ils se débarrassent de ceux qui les importunent, de ceux qui les dérangent, de ceux qui les agacent. avec ce discours. Mais vous savez, le discours est encore un discours agaçant, celui de l'Évangile, aujourd'hui. Parlez aux gens, hein, vous leur parlez d'autre chose, ça, il n'y a pas de problème, ils vont vous écouter. Et vous leur parlez de Jésus, vous leur parlez de la vie éternelle, vous leur parlez de leur position par rapport à la mort. Ça va les mettre en colère. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Leur parler que Jésus est mort pour eux, que bah, il faut se repentir, bah, ils vont vraiment, ils vont vous prendre pour des gens qui sont pas bien du tout. Hein. Alors, ils ont traité de la même manière, de la même façon, et bien là, les serviteurs qui étaient envoyés. Enfin, le maître propriétaire de la vigne, il nous a dit, enfin, il envoya vers eux son fils. Alors, c'est là où, justement, toute l'image et toute la leçon que nous avons en tirée, eh bien, nous introduit dans le Nouveau Testament, maintenant. Avant, c'était des hommes, c'était des prophètes, c'était des hommes qui étaient inspirés, c'était des hommes qui parlaient de Dieu, qui faisaient le sacrifice de leur vie, quelquefois, hein, parce que ils parlaient hardiment, et ils parlaient ce que Dieu leur avait dit de dire au peuple. Mais, de temps en temps, il y avait des repentances, quelquefois, il y a eu des mouvements où le peuple revenait vers Dieu, mais ça durait pas longtemps. Ça durait le temps, souvent, d'un bon roi, ou ça durait le temps d'un prophète. Puis une fois que le prophète ou le roi était mort, tout le monde repartait dans l'autre sens. C'est pour vous dire que la conversion, c'est quelque chose de profond. Et c'était pas des conversions. C'était tout simplement des mouvements de culpabilité, des mouvements de sentiments religieux. Et le sentiment religieux n'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant. Il faut vraiment un changement de vie. Alors, on y revient. Enfin, il envoya vers eux son fils. C'est pour ça que Jésus est appelé le fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus est appelé le fils de l'homme. Identification à son Père céleste et identification à notre humanité. C'est-à-dire ce que nous sommes, nous, des hommes. Et Dieu a envoyé, s'est envoyé lui-même, si vous voulez, à travers son incarnation dans la personne de Jésus, pour parler aux hommes. Et là, nous sortons de l'Ancien Testament, que nous avons lu, à travers quelques éléments qui nous sont donnés dans la parabole de Jésus, pour rentrer véritablement, eh bien, dans un temps de l'histoire, qui est, eh bien, l'ère nouvelle du christianisme, en quelque sorte. Avant le temps des Juifs. Révélation à un peuple qui n'en a rien fait, qui s'est rebellé, qui s'est révolté contre Dieu. Et maintenant, eh bien, cette nouvelle, eh bien, est annoncée au monde entier. C'est plus seulement un peuple qui a failli, un peuple qui a sorti finalement de son rôle, nous pourrions dire. Israël retrouvera son rôle, mais au retour de Jésus-Christ seulement, hein, pas maintenant. Hein. Et il y a eu naturellement une nouvelle disposition, c'est ce qu'on appelle l'ère chrétienne. Hein, le christianisme à travers Jésus et l'évangile, c'est pas la peine d'en rajouter d'autres. C'est pas une affaire de religion, hein, c'est pas catholique, ni protestant, ni ceci, ni cela, que vous pouvez les multiplier à l'infini. Ça, ce sont les hommes qui ont inventé ça. Mais le message que Jésus est venu donner, c'est pour tous les hommes, c'est un message universel. Donc, il envoya vers eux son fils. Apparition de Jésus parmi les hommes. Sorti lui-même du milieu des Juifs. Et d'ailleurs, il le dira à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. À l'origine, ça vient des Juifs. Bien qu'on puisse ajouter que les Juifs n'en ont rien eu à faire. Mais néanmoins, Jésus était Juif. Et il est venu parler à ses concitoyens, à ses contemporains. Et on va voir que finalement, eh bien, ils ne l'ont pas entendu. Mais toujours est-il qu'il y a eu la venue de Jésus en disant « Ils auront du respect pour mon fils, parce que c'est mon fils. » S'ils n'ont pas écouté le Père, ils ne vont pas écouter le Fils. Surtout dans la forme corporelle d'un Dieu qui vient sous forme humaine. Alors là, c'est le meilleur moyen pour faire ce qu'on ne peut pas faire à Dieu, parce que Dieu est invisible, on peut le tuer. Mais là, un homme, on peut le tuer. Mais ils ne savaient pas, les Juifs, que le Père y avait, celui qu'ils vénéraient depuis des siècles et des siècles à leur manière, religieusement, hein, avec des cérémonies, des traditions et toutes sortes de choses. Ils ne savaient pas qu'en voyant un homme comme Jésus, ils s'attendaient peut-être à voir un roi glorieux, mais ils ne savaient pas que dans l'humilité, la modestie de Jésus, homme parmi les hommes, simple homme parmi les simples, modeste, eh bien c'était Dieu en personne. Dieu n'est pas vu d'une manière transcendante en disant maintenant « je suis Dieu » comme dans la mythologie, hein, « je suis Dieu, maintenant vous allez m'écouter, vous allez tous courber les genoux ». Non, pas du tout. Jésus est passé, semblable à tous les hommes, avec tous ces sentiments que nous connaissons, c'est-à-dire des sentiments d'amour, des sentiments de grâce, remplis d'actes d'amour et des paroles d'amour. Les Juifs l'ont vu arriver, il y a eu un grand doute. Est-ce que ce serait lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est notre Messie? Et ceci et cela. On l'a traité de démon, on l'a traité de samaritain, on lui a mis tout sur le dos. Seulement quelques-uns qui sont devenus ses disciples ont cru, mais la grande partie du peuple, eh bien, n'a pas cru. La grande partie du peuple s'est détournée de Jésus. Mais d'ailleurs, les gens avaient peur, puisque il y avait l'institution rabbinique, il y avait tout le fonctionnement du temple et des synagogues. Hey, allez vous opposer à tout ce corps ecclésiastique tout puissant qui régentait la vie morale, la vie religieuse et la vie politique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors les gens, voilà, ils savaient plus tellement. Voilà, c'est ce que Jésus dira dans son réquisitoire, dans Matthieu chapitre 23. Vous dites aux gens de faire ceci, mais vous ne le faites pas vous-même. Hypocrite! C'est pour ça que Jésus a donné vraiment ce qualificatif à tous ces pharisiens et puis tous ces gens qui se rehausser en disant, mais nous sommes les meilleurs, hein. C'est comme l'histoire du pharisien dans le temple. Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ceci, cela. Ils se croyaient pas pour n'importe qui, hein. Voilà. Mais, donc, ils auront du respect pour mon fils. Et on va voir comment ça s'est passé. Ça a été rapide. Il envoya son fils, donc, ils auront du respect pour lui. Mais quand les vignerons virent le fils, l'apparition de Jésus, cette apparition toute modeste, un petit enfant dans une crèche, pendant à peu près une trentaine d'années, dans l'ombre d'un petit village qui s'appelle Nazareth, fils du charpentier Joseph, et à un moment donné, 30 ans dans l'ombre, 3 ans en pleine lumière, où Jésus est venu, baptisé par Jean-Baptiste, commençant à faire des messages, des guérisons qui descendaient du ciel, des prodiges, des choses extraordinaires changeant l'ordre de la nature, ressuscitant les morts, etc., etc. Les gens étaient éberlués en disant, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Certains ont reconnu la main de Dieu et se sont attachés à Jésus, tout petit nombre. Et puis la plupart ont dit, mais c'est pas possible, hein. C'est un fou, il est insensé, hein, c'est pas normal. Oui, parce que Jésus leur a dit la vérité. Ce que les prophètes, Jésus n'a fait que, quelque part, rappeler à Israël, en ce temps-là, ce que Israël avait entendu pendant des siècles et des siècles par les prophètes de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Maintenant, Jésus avait une particularité. Le message était quelque peu changé. Ce n'était plus l'exigence de la loi. Ce n'était plus les commandements arbitraires. Si tu n'obéis pas, tu vas mourir. Non. Si tu crois, tu vas vivre. Ce n'était plus un devoir, le message de Jésus. C'était un acte d'amour et l'obéissance n'était plus une obéissance d'esclave, mais une obéissance d'amour. C'est-à-dire que quand on fait les choses avec l'amour, c'est facile. C'est ça la différence qu'il peut y avoir entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En quelque sorte, le ton avait changé, l'esprit avait changé. Ce que les hommes ne pouvaient pas obéir, parce que c'était plus fort qu'eux, obéir à tous les commandements, c'était impossible. S'ils péchaient sur un, ils péchaient sur tous les autres. Alors que Jésus est venu pour absoudre, il est venu pour dire, écoutez, n'essayez pas de faire votre salut par vous-même. C'est pas votre religion, c'est pas vos offrandes, c'est pas votre culte au temple, c'est pas dans vos synagogues, etc., etc. Vous n'y arriverez jamais, parce que c'est impossible pour l'homme de se sauver lui-même. Mais moi, je suis venu vous donner des paroles. Et si vous croyez en moi, eh bien moi je vous dis que vous avez la vie éternelle. Et que ce qui vous est impossible d'accomplir aujourd'hui, eh bien vous pourrez l'accomplir par mon esprit en vous. La petite différence qui était là, une grande différence, naturellement. Vous savez qu'on a de la chance de vivre dans l'ère chrétienne. Tout le monde ne l'a pas compris, hein. Parce qu'il y en a encore qui sont en train de fonctionner comme les juifs, hein. À travers là, toutes sortes de choses en pensant qu'ils vont être sauvés par leurs efforts, par leurs mérites, par leur contribution à ceci et cela. On est sauvé par grâce. On vient tel que l'on est. Si l'on croit à Jésus-Christ, il nous sauve. C'est trop facile, hein? C'est bien pour ça que les gens ne veulent pas le croire. Et du temps de Jésus, les Juifs disaient, non, racontez pas nous, faut pas nous raconter des histoires. Pour être sauvé, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., etc. Donc, ils virent le Fils, et ils se dirent entre eux, c'est toute l'histoire de la passion de Christ à ce moment-là. Parce que Jésus leur disait les choses qui ne leur faisaient pas plaisir. Il leur annonçait des nouvelles, surtout qu'il leur a donné des petits noms d'oiseaux, vous êtes une bande d'hypocrites, vous êtes une race de vipères. Oh là là, ça fait plaisir d'entendre. Alors ça les a mis en colère. Puis quand Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, alors là je peux vous dire que Ça a été véritablement une explosion. Il se fait Dieu, il blasphème, etc., etc. Eh oui, c'est ainsi que nous voyons, que nous pouvons, je suis en train de faire une lecture en diagonale là, très rapide, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Hein. Alors ils se dirent entre eux, c'est-à-dire qu'ils se sont concertés. Et il n'y avait pas à ce moment-là que les Juifs qui se sont concertés. C'est ce que nous dit un des psaumes, il nous est dit que même les nations se sont concertées avec les Juifs pour tuer Jésus, pour tuer le Fils, pour détruire l'œuvre de salut de Dieu. D'empêcher d'aller jusqu'à la croix, il ne savait pas. Hein. Il ne savait pas que le salut avait comme fondement la croix. Il fallait que quelqu'un meure pour tous les hommes, afin que tous les hommes qui croiront en lui ne meurent point. C'est ça, parce que là, il n'y a pas de mérite hein, qui rentre en jeu, c'est simplement la foi. Donc, ils n'ont pas eu de respect. Et ils se sont dit, voici l'héritier. Oui. Dieu avait délégué Jésus sur la terre pour parler aux hommes, et ça fait 2000 ans qu'il parle, et ça fait 2000 ans que la nouvelle de l'évangile se propage. Et le christianisme s'est propagé dans le monde entier. Christianisme religieux, teinté de religion, teinté d'erreurs, de fausses doctrines, de toutes sortes de choses, mais le christianisme est quand même resté vivant. Là où il a été gardé dans les cœurs purs, là où véritablement il y a des besoins de fin, de justice, de vérité, naturellement. Alors, ils ont dit, voici l'héritier, venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. Ça s'appelle tout simplement, et bien là, de l'usurpation. Parce qu'ils étaient tellement bien dans leur état de maître souverain, de pontife, de souverain sacrificateur, de sacrificateur, de pharisien, qui, quelque part, bah, c'était ces messieurs que l'on saluait dans la rue en disant, mais voilà, nous avons du respect pour vous, nous faisons tous nos hommages, etc. Et puis en plus, ils passaient. Les pauvres gens, c'est eux qui payaient, et puis c'est les autres qui en profitaient. Il y avait des scandales, c'était de l'injustice, comme toutes les religions d'ailleurs, hein, parce que la religion est liée à l'argent, et l'argent est lié à la religion. On le voit avec la parabole de la pauvre veuve. Vous connaissez l'histoire, hein, une femme qui n'a rien. Tout ce qu'elle a, elle va le mettre dans le tronc pour Dieu, par amour pour Dieu. Alors que Jésus dira, regardez, tous ces pharisiens, ils arrivent avec des bonnes plèches, des poches pleines de monnaie, et ils font dégouliner, parce que c'était des grands troncs en bronze, ils font dégouliner les pièces pour que tout le monde entende ce qu'ils donnent. Hypocrite. Et on voit bien qu'il y a deux mondes qui sont là, et Jésus a bousculé les institutions religieuses de son temps. Vous vous rendez compte, le judaïsme qui avait près de 2000 ans d'ancienneté, comme nous, dans le christianisme, et quand il a sorti tout ce qu'il a sorti, quand il a fait, il a manifesté dans le temple, en disant, vous avez fait de la maison de mon Dieu une caverne, hein, de voleurs, hein, vous faites du trafic, hein, et ça, c'est alors que c'est une maison de prière. Ils n'ont pas été contents, hein, je peux vous dire que, quelque part, ça leur a fait un drôle d'effet. Hein. Pour ça, que la vérité, elle s'écoute, elle s'entend, elle se reçoit. Mais si elle ne se reçoit pas, les gens deviennent méchants. Ah oui, ils deviennent furieux, ils deviennent fous. Surtout la question religieuse, hein. C'est très très sensible. D'ailleurs, les guerres de religion sont toujours parties sur ce genre d'éléments, en quelque sorte. Hein. Voici l'héritier, nous allons le tuer, et nous allons nous emparer de son héritage, c'est-à-dire que c'est nous qui serons les rois. Nous serons toujours en place, nous serons toujours des souverains pontifes, nous serons toujours des gens qui seront honorés, des gens et le monde viendra nous donner de l'argent, nous construirons des cathédrales, des temples, nous construirons des basiliques, des choses comme ça, et on dira, mais c'est merveilleux, c'est déjà le royaume de Dieu sur terre. Ben écoutez, hein, c'est pas ça finalement, le royaume de Dieu, c'est pas ça. Et aujourd'hui, on est sur la même lancée. Le temple de Jérusalem qui a été reconstruit par le roi Hérode au moment où Jésus est né, c'était une splendeur à l'époque. 70 ans après, il était détruit. Il ne restait pas pierre sur pierre. Et aujourd'hui, on se glorifie dans notre Occident chrétien à voir les plus beaux monuments. Les gens viennent par millions visiter la France. Et qu'est-ce qu'on leur montre? On leur montre nos beaux édifices religieux et ceci et cela. Vous allez à Rome, vous allez partout. Mais ce sont des pierres. Ce sont des pierres qui ne sont pas vivantes. Ce sont des pierres mortes. Même s'il y a l'industrie et l'art des hommes. C'est pas ça. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu touche le cœur, c'est tout, hein. Et le véritable temple, il est à l'intérieur de nous-mêmes quand Jésus y règne. C'est une autre affaire. Alors nous allons nous emparer de son héritage. Nous ne voulons pas que notre judaïsme, nous ne voulons pas que notre catholicisme ou notre protestantisme, je mets tout le monde dans la même, hein, dans le même horizon. Mais une chose qui est certaine, nous nous apercevons que quand Jésus parle encore aujourd'hui, et il devrait encore, et il a certainement encore à faire avec cette forme de résistance, d'opiniâtreté, de volonté à résister finalement à la vérité, à la justice. Et ça, c'est terrible. Vous avez vu que les religieux se dépouillent? Oh oui, il y en a certains. Mais toutes ces richesses qui sont accumulées comme ça, comme les Juifs du temps de Jésus à Jérusalem. Alors, ils ont voulu s'en parler de son héritage, et ils se saisirent de lui. Vous connaissez ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané. On sait ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Pour se débarrasser de Jésus, il vaut mieux, dira le grand souverain sacrificateur, Caïphe. Il dira, mais vaut mieux qu'un homme meure et que le peuple soit sauvé. Mais justement, cet homme est mort pour sauver le peuple, mais le peuple n'a rien compris, et en particulier finalement les autorités de Jérusalem. Alors ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis en dehors du peuple, et ils le tuèrent. Alors si vous voulez une explication, ils le crucifièrent, tout simplement. Les Romains, en accord avec les Juifs, les nations, se sont concertés pour évincer Jésus. Jésus a trop parlé, Jésus a dit la vérité, il a apporté les principes de justice au royaume de Dieu, et on s'est dit, il faut le faire taire. Tous ceux qui disent la vérité sont gênants. Il y en a eu après qui sont morts, pour avoir dit la vérité. Alors ils le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vie viendra, c'est la question que Jésus pose dans son image, dans la parabole, maintenant, lorsque le maître de la vie viendra, que fera-t-il à ces vignerons qui se sont comportés comme des usurpateurs, qui se sont comportés comme des sanguinaires, des criminels, des meurtriers? Alors on n'est pas là pour accuser le peuple juif, mais quand ils ont dit devant Pilate que le sang de ce juste, en parlant de Jésus, retombe sur nous et sur nos enfants, c'était d'épouvantables souffrances pour le peuple juif jusqu'à nos jours. Toutes ces déportations, chassés de Palestine, ayant perdu leur capitale Jérusalem, répandis à travers le monde entier, à travers des pogroms, à travers des éliminations ici, par-ci, par-là, en Espagne, en Russie, en France, persécution des Juifs, de tous les côtés, jusqu'à ce que nous avons connu, il y a 80 ans, 6 millions de Juifs sont morts dans les fours crématoires, dans les camps de concentration. C'est horrible ça, hein? Mais ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. C'est terrible. Prions pour Israël, pour qu'il se tourne vers le Seigneur. Prions pour le peuple juif, pour que ses yeux se dessinent, pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient finalement que Jésus est leur Messie. Ils l'attendent encore, le Messie. Vous vous rendez compte? Ça fait 4000 ans qu'il l'attend. Alors ils répondirent, parce que Jésus va poser la question finalement à ceux qu'il est en train de dénoncer, à ceux qui sont en train d'écouter son histoire et dont ils sont eux-mêmes finalement les acteurs. Ils lui répondirent, il fera plaisir misérablement ces misérables et affermera la ville à d'autres vignerons. Qu'est-ce que nous aurions fait? On aurait fait la même chose. Il fera périr ces misérables. Eh bien c'est toute l'histoire que je viens de vous de toute la catastrophe, de toute la misère du monde que les Juifs ont connu depuis 2000 ans. Et ça n'en finit pas. Un peuple qui a toujours été en guerre lorsqu'il était en diaspora, dans les pays là où il se trouvait, et en guerre alors qu'il est revenu depuis 1948, il est encore en guerre et ça ne cesse pas. C'est terrible, hein? Ouais, il fera périr ces misérables, qui lui donneront le produit au temps de la récolte, qui lui donneront le produit au temps de la récolte. La récolte n'est pas loin, on va en dire deux mots de la récolte, là, d'ici quelques instants. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est-à-dire qu'ils ont voulu rejeter Jésus. Et Jésus, c'est la principale pierre de l'angle. dans les constructions, certainement dans l'Antiquité, je ne sais plus comment ça se passe en maçonnerie aujourd'hui, il y a peut-être une pierre de langue encore, certainement une pierre maîtresse, je ne sais pas, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être dans l'époque, on mettait une pierre maîtresse, et autour de ces pierres, on commençait à tirer les murs, etc., et on montait pour faire une maison. La pierre angulaire, si vous voulez, la pierre de l'angle. Et on s'aperçoit que Jésus est véritablement la pierre qu'ils ont rejetée. Parce que toute la maison de la vie, toute la maison du peuple d'Israël, toute la maison de ce que nous sommes aujourd'hui, si on peut appeler ça une maison, eh bien, repose sur Jésus-Christ. Le christianisme repose sur Jésus-Christ. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Et c'est ça, justement, ce que les hommes ne veulent pas comprendre. Ils veulent bien d'une religion, ils veulent bien un pape, ils veulent bien je ne sais quel président de fédération, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est sûr. Je parle sur le plan religieux, hein. Mais ils ne veulent pas de Jésus. Jésus n'a pas la première place. Et vous rejetez la pierre de l'angle, la maison va s'écrouler, puisqu'il lui manque l'essentiel. C'est comme une clé de voûte, vous savez, dans les cathédrales. Ça tient sur finalement eh bien, une pierre qui est une clé. Vous vous rendez compte d'un édifice qui peut s'élever à des dizaines et des dizaines de mètres, qui tient finalement parce qu'il y a une pierre qui retient les deux montants. C'est ingénieux, hein, c'est de l'architecture. Mais vous enlevez Jésus, et bien tout s'effondre. Alors les hommes se sont fait leur religion, ils se sont donné des noms, ils ont eu des appellations, ils se sont fait des dominations, mais s'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien du tout. Et les Juifs ne voulaient pas Jésus, ils ne voulaient pas le reconnaître comme leur Messie. Et il dit, mais la pierre de l'angle qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de la construction. Vous avez rejeté votre Messie. Les hommes encore aujourd'hui rejettent Jésus. Ben, la maison ne se fera jamais. Il y aura des ersasmes de maison, il y aura des caricatures de maison, il y aura toutes sortes de choses, mais ce ne sera pas la vraie maison de Dieu, ce ne sera pas le royaume de Dieu, puisqu'on a enlevé le principal. Et cela, et c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à vos yeux, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comprendre que l'œuvre de Dieu, elle est spirituelle, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas seulement moraliste, et elle n'a rien de moraliste, ce n'est pas une bonne morale. C'est pas pour des braves gens, c'est pour des pécheurs qui se repentent et qui se convertissent et qui donnent leur vie à Jésus. C'est tout. Alors je termine. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et on sait très bien qu'avec la venue de Jésus, la nouvelle ère chrétienne a enlevé la primauté du peuple élu qu'est Israël. Peuple qui n'a jamais disparu. Parce que Dieu l'a laissé subsister. Il y a bien des peuples dans l'histoire qui ont complètement disparu, hein, se sont fondus, disparus, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'Israël est toujours resté. Hein. Depuis l'appel d'Abraham, Israël est toujours là. Hein. Ça fait 4000 ans, hein, ou presque. Alors, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Vous n'en avez pas voulu du royaume de Dieu. Vous ne voulez pas entendre parler du salut. Vous ne voulez pas entendre parler, vous les Juifs, de votre Messie. Vous les hommes du monde, vous ne voulez pas entendre parler de votre Sauveur. Eh bien, vous avez raté l'occasion. Maintenant, Dieu donne encore, parce qu'il est patient, d'autres occasions. Mais en tous les cas, les choses sont ainsi. Et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et c'est là, justement, où nous revenons à notre texte. Il nous est dit qu'il donnera à d'autres vignerons qui lui rendront le produit au temps de la récolte. Vous savez qui c'est maintenant, les vignerons? Mais les vignerons nouveaux, avec un cœur nouveau. Eh bien, c'est l'Église. C'est plus Israël. C'est l'Église de Jésus-Christ. Pas l'Église avec un nom. Pas l'Église évangélique. Mais l'Église qui appartient à Jésus. Faite d'hommes, de femmes. Non pas baptisés petits enfants parce que on les a obligés à suivre les traditions de leur père. Non. Des hommes et des femmes qui, en connaissance de cause, se sont tournés vers Jésus. Ont demandé pardon de leurs péchés. Se sont repentis. Se sont convertis à Jésus-Christ et sont nés de nouveau, voire même baptisés du Saint-Esprit. Et ils en rendront les fruits, non pas des fruits amers, non pas des fruits de querelle, non pas des fruits de désobéissance, non pas des fruits de mépris, mais des fruits où quelqu'un qui a un cœur nouveau est complètement changé. Nous chantons des cantiques, nous chantons les louanges de Dieu, nous l'adorons et nous essayons de mettre en pratique autant que cela nous est possible de le faire avec sa grâce et son esprit, eh bien, finalement, ce qu'il nous a demandé. Et les fruits, eh bien, on les connaît, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, Il y en a 9 comme ça, je ne vais pas vous les citer tous, mais cette nation qui en rendra des fruits, c'est l'Église d'aujourd'hui. La véritable Église, je ne dis pas que c'est la nôtre, je dis que c'est l'Église universelle d'hommes dont je viens de définir la caractéristique spirituelle et morale. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il y a 2 sortes d'accidents dans ce qui est dit. Celui qui heurtera cette pierre s'y brisera, il se blessera, parce que c'est une jambe, parce que c'est un bras, parce que c'est la tête, il peut se casser quelque chose, mais il ne meurt pas. Il restera infirme. Il sera peut-être soigné. On lui donnera peut-être finalement, eh bien là, un équipement, comment on appelle ça, orthopédique, mais il vivra. Mais il restera blessé. Par contre, celui sur qui elle tombera, cette pierre, sera écrasé. Ça, c'est périr, c'est mourir. Comprenez? Deux choses différentes. Il y a une subtilité dans les paraboles de Jésus. Elles sont pleines de sens et de sagesse. Eh oui. Et je crois que c'était probablement, eh bien, ce que Jésus voulait faire ressentir à ses opposants, à ses détracteurs, à ses adversaires. Eux étaient ennemis de Jésus, mais Jésus les considérait comme des hommes à sauver. Il n'en voulait pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous avez quelqu'un, vous lui proposez le meilleur et le bon, il vous dit, moi j'en veux pas de votre histoire, hein, c'est vous les gardez pour vous. Autrement, si vous voulez me les imposer, moi je vous tue. Mais c'était ça les guerres de religion, faut pas se faire d'illusions. Hein. Si tu ne te convertis pas à ma religion, eh bien on te tue. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On le voit, l'actualité. Alors, sous une autre forme, c'est l'islam, c'est je ne sais quoi, hein, ou l'hindouisme, parce qu'il y a beaucoup de crimes qui se font hein, au nom du bouddhisme et de tout ce que vous voulez. Hein. Celui qui heurtera s'y brisera, et celui sur qui il tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent. Il leur fallait ça. Comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Vous vous rendez compte? Il a fallu finalement cette allégorie, cette image, cette parabole. Et là, ça les a rendus encore plus furieux parce qu'ils ont entendu la vérité sur eux-mêmes. C'est terrible. Il y a des hommes qui entendent la vérité, qui s'humilient, qui se courbent de dire « oui, c'est vrai, je suis comme ça ». Vous savez, c'est l'histoire de Zachée, hein, c'est l'histoire de bien d'autres. Hein. C'est l'histoire de Pierre, quand le Seigneur l'appelle en disant « viens, suis-moi maintenant ». Pierre dira « mais je suis un homme pécheur, retire-toi de moi. Hein. Je suis trop moche, je suis trop mal, je suis trop sale, je suis trop impur ». Alors là, c'est bon signe, parce que c'est quelqu'un qui prend connaissance de ce qu'il est et qui demande à changer. Mais eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait et ils cherchaient à se saisir de lui. Et vous savez ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient tout simplement le tuer tout de suite. Et à chaque fois qu'ils ont voulu, pendant un certain temps, ça a duré 3 ans, hein, quand ils ont voulu mettre la main sur lui, à chaque fois, il y avait toujours quelque chose de providentiel. Parce que la mission de Jésus n'était pas terminée. Il devait parler jour après jour, il devait prêcher les enseignements du royaume de Dieu, il devait susciter de la foi, il devait prouver cette parole qui venait du ciel à travers des signes, des miracles et des prodiges, et des choses extraordinaires. Mais il est arrivé un jour, où là, même son plus proche, ou un de ses plus proches, l'a trahi, l'a livré, et on sait comment ça s'est terminé. Et là, je pense que les pharisiens, les sacrificateurs, ils exultaient en disant « nous l'avons eu maintenant, et on va le faire mourir, comme ça on sera débarrassé ». On ne s'est pas débarrassé de Jésus, parce que de tous ces gens de l'époque, qui étaient des notables, des notoriétés, qui étaient en haut, finalement des plus grandes positions et qui géraient le monde de l'époque, on n'en parle plus aujourd'hui. Par contre, on parle encore de Jésus. Et on n'a pas fini d'en parler, hein. Parce que Jésus est parti, mais Jésus revient. Et là, il va y avoir encore quelque chose qui va se passer. Il vient emmener son Église, ce qu'on appelle les rachetés, et là, nous allons être dans sa gloire, et nous allons vivre l'éternité avec lui, mais par contre, il vient juger les nations. Et là, ça sera vraiment le jugement dernier. De tous ceux qui, non pas par ignorance, parce que Dieu tient compte de l'ignorance des gens, ou de la méconnaissance, mais tous ceux qui a main levée en disant « nous ne voulons pas de Dieu ». Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Alors là, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Les choses rentreront dans l'ordre. C'est pour ça qu'il est question de ceux qui, en rejetant la pierre va leur revenir et ils seront écrasés. C'est terrible, hein, les choses comme ça. Il fallait-il ça, hein. Ils cherchaient à se saisir de lui, Mais ils craignaient la foule. Ils sont des courageux quand même. Eh oui, ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est le Messie des Juifs. Il est le Sauveur de tous les hommes du monde qui existent dans le temps et dans l'espace. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que les choses ont été claires, qu'elles sont simples dans le décodage de cette petite parabole. Mais une chose qui est certaine, c'est que quelque part, le Seigneur nous appelle encore. Il nous appelle. Et il nous dit bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. C'est ce qu'il a donné ce soir, à travers modestement, eh bien, quelques paroles. Recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. Jésus n'est pas un dictateur. Jésus est véritablement celui, incarnant le Dieu du ciel, rempli de miséricorde et de grâce, qui est venu tendre la main aux hommes, faut-il que les hommes l'entendent. C'est pour ça qu'il dira très souvent dans ses paraboles, celui qui a des oreilles, entende ce que dit la parole de Dieu ou l'Esprit. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Croyons, Seigneur, que c'est une parole de tous les temps. Et quelle belle illustration, Seigneur, tu as bien voulu donner aux hommes de ton temps réfractaires, rebelles, désobéissants, opposés, Seigneur, manifestant véritablement, eh bien, leur incrédulité, tout ce qu'il pouvait y avoir de mauvais dans leur cœur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que si les hommes se sont tus à travers l'histoire, les hommes qui ont été, en effet, qui avaient une place au soleil, eh bien, en tuant Jésus, ils n'ont fait que perpétuer son message et le faire vivre. En le mettant à mort, Jésus est ressuscité. Parce que pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Mais la mort ne l'a pas retenu et aujourd'hui, Jésus parle encore. Il parle par sa parole, il parle par la prédication, il parle dans nos consciences. Tous les jours, il parle aux hommes d'une manière ou d'une autre. Il tient, en effet, le langage, eh bien, de la vérité, de la justice, de l'amour, connaissant les peines et les souffrances, la misère des hommes et les invitant, parce qu'ils sont chargés, ils sont, en effet, Père éternel, fatigués, les invitant à venir à lui et l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen.